Amen. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, si vous voulez bien, dans la deuxième épître de Paul. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Et au verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Nous lisons quelques versets. Jusqu'à ce que ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire que pour comprendre les choses, il faut avoir un cœur converti. Or l'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. La vie chrétienne est une vie de transformation, est une vie de changement. Je ne dirais pas perpétuel, mais quasiment. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avancer, non pas de décrépitude en décrépitude, mais de gloire en gloire. Alléluia. Et non pas d'une gloire passagère, et l'apôtre ici parle même de cette gloire de l'Ancien Testament qui était plus pâle que la gloire que nous vivons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Et lorsque notre cœur se convertit, lorsque notre vie intérieure est renouvelée, alors nous sommes transformés de gloire en gloire. Parce que le but du salut, c'est de nous rendre semblables, dit l'Écriture, à l'image de Jésus. Un jour, nous serons tous et toutes semblables à Jésus. Alors je sais qu'il y a du boulot, qu'il y a du chemin, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver, amen. Un jour, nous serons comme le Seigneur. Un jour, nous serons semblables à notre Dieu. Mais pour cela, il est nécessaire que notre cœur déjà ait rencontré le Seigneur et fait une expérience de rencontre avec le Seigneur, qu'il se soit converti, qu'il se soit retourné littéralement, qu'il ait fait demi-tour. Il est important ce matin qu'on le réalise. As-tu fait demi-tour ? Vous savez, quand on prend un mauvais chemin et qu'on a réalisé qu'on est sur une mauvaise voie, si on veut se rendre au bon endroit et qu'on a réalisé qu'on est en train de se tromper, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir, il faut faire demi-tour, il faut faire quelque chose parce que sinon la direction que nous prenons nous amènera dans une mauvaise destination. Alors, si nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, je crois que le désir du Seigneur également, c'est de nous rendre heureux. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus va, parler à ses disciples et même à la foule de disciples. Il va monter sur la montagne, Matthieu 5, versets 1 et 2, et puis il va s'asseoir et là il va enseigner. Il va prendre sans doute du temps, il va prendre un moment important avec ses enfants, avec ceux qui ont décidé de le suivre. Il a fait du ministère, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a prêché l'évangile. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus est littéralement monté sur la montagne. Je crois que c'est important de monter sur la montagne. Amen. De temps en temps, on y va, oui ou non? Est-ce que vous allez partir en février à la montagne pour certains d'entre vous? Voilà, en tout cas, à la montagne, on s'y sent bien, mais à la montagne de la communion avec le Seigneur, on s'y sent encore mieux, amen. Et là, Jésus va indiquer ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous savez, ces béatitudes que le Seigneur a enseignées à ses enfants, à ses disciples, sont au nombre de 7, 8 béatitudes. et ont pour objectif finalement de donner, si je puis dire, des clés pour que son peuple, pour que ses disciples connaissent le chemin du bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, qui vient du ciel, et puis, oh, je me sens heureux, tiens, j'ai passé un bon moment, je me sens heureux. Non, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit avec le Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il y a des choses, si on veut les construire, il faut que celles-ci soient bâties, basées sur la parole de Dieu et avec le Seigneur dans notre vie. Alors quand on étudie les béatitudes, on se rend compte déjà que des béatitudes, il n'y en a pas que dans les évangiles. Quand on lit le livre des psaumes, il y a souvent cette expression « heureux, heureux ». Heureux. Dans le livre des psaumes, il y a des béatitudes. Et même dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi plusieurs béatitudes. Par exemple, il est dit « Heureux ceux qui meurent dans... » Oui, parce que ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, ils ne sont pas heureux. Ils vont tout droit en enfer, hélas. Il est important d'avoir la paix avec notre Dieu et avec le Seigneur. Et des béatitudes dans le livre des psaumes, sans doute parce que quand on prie, quand on sait prier, quand on a appris à prier, quand on prie régulièrement, alors la prière, la communion avec le Seigneur nous offre le bonheur. Les hommes cherchent le bonheur. Ils cherchent le bonheur partout. Il y a même un passage dans le livre des psaumes qui dit « Qui nous fera voir le bonheur ?» On peut penser que le bonheur se trouve dans les biens matériels, mais les biens matériels ne donnent pas le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Jésus parle du bonheur, il parle d'un certain nombre de choses et je n'ai pas l'impression, en lisant... à première vue, que les choses que le Seigneur mentionne sont facteurs, sont sources de bonheur. Les pauvres en esprit, est-ce que les pauvres sont heureux? Naturellement, on va dire non. Allô? Voilà, pour le Seigneur, les pauvres en esprit sont heureux. Le Seigneur dira encore « heureux les affligés ». Enfin, Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Voyez, quand on lit la parole de Dieu, on a vraiment besoin d'avoir une lecture plus que primaire ou qu'intellectuelle. Ce qui donne de la lumière, c'est la révélation. La Bible dit « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. » Alors ce matin, si on veut être heureux, déjà ce qu'il faut, c'est avoir un cœur tout simple. Un cœur simple, un cœur d'enfant devant le Seigneur. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur pauvreté morale. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans le Seigneur. Quand l'apôtre Pierre ou Simon Pierre a été devant le Seigneur et qu'il a vu la pêche miraculeuse, il a été convaincu de péché. Il dira « Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Voilà ce qu'est un pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il est face à la sainteté de Dieu ou à la puissance de Dieu ou devant le Seigneur Jésus, pense qu'il est nickel, qu'il a tout compris, qu'il sait tout. Non, en réalité, un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est un pécheur. Vous savez que même nous, en tant que chrétiens, sauvés par grâce, nous demeurons des pécheurs? Oui. Nous sommes encore dans une nature pécheresse et il nous arrive, hélas, encore parfois, eh bien, de pécher. Mais par la grâce de Dieu, nous avons le bon et beau message de la grâce du Seigneur Jésus qui dit « Ne crains pas, Pierre, désormais, tu seras un pécheur d'homme. » Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Amen. Donc les pauvres en esprit, ce sont en réalité ces repentis qui reconnaissent finalement leur état de péché. Alors, quand on parle de repentance, et c'est important d'avoir cet esprit de repentance, cette mentalité de repentance, parce qu'on pourrait penser que le message de la repentance, c'est un message qui s'adresse uniquement aux gens du dehors. Oui ou non ? On prêche l'évangile. Donc, quand on prêche l'évangile, qu'est-ce qu'on fait ? On prêche là. Mais vous voyez, la Bible dit que sur cette église de l'Asie mineure de l'époque, la Turquie actuelle, sept églises qui sont des églises type, sur sept églises, cinq ont besoin de repentance. Ça veut peut-être dire que sur sept chrétiens au milieu de nous, sur sept chrétiens, le pourcentage est important, cinq ont besoin de se repentir. La repentance précède la conversion. C'est fou, mais c'est un message qui s'adresse non seulement au monde, la repentance et la conversion, mais aussi à l'Église. Réalisons ceci. La repentance, ce n'est pas seulement une prédication que les apôtres ont prêchée, que Jésus-Christ a prêchée, mais c'est aussi un enseignement. On se rappelle du roi David, le roi David, qui, après avoir commis le péché d'adultère, a commis un crime en faisant tuer le mari de la femme d'Uri, Uri le Héthien. Il l'a tué et à un moment donné, la Bible dit qu'il va être saisi par le Saint-Esprit. David était un homme pauvre d'esprit, un homme qui savait se remettre en question, qui savait demander pardon au Seigneur pour ses fautes, pour ses péchés, à la différence de Saül, qui lorsqu'il a péché, il ne savait pas se remettre en question, il ne savait pas demander pardon. Alors quand on lit le psaume 51, il y a des enseignements à l'intérieur qui nous révèlent ce qu'est la vraie repentance. Et je répète, la repentance, c'est quelque chose dont nous avons tous et toutes besoin, tôt ou tard, dans notre parcours de chrétien. Amen. Vous savez, avant d'attaquer le psaume 51, quand le Seigneur s'est adressé à l'église d'Éphèse, par exemple, c'était une belle église, Éphèse, fondée par l'apôtre Paul, le Seigneur va lui dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'était une belle assemblée qui avait connu l'amour de Dieu, qui vivait dans l'amour de Dieu, mais qui, avec le temps, a laissé ses sentiments pour le Seigneur s'éroder. Et sa passion pour le Seigneur n'était plus intacte. Le temps et les circonstances avaient eu raison de leur passion. Et le Seigneur l'a adressé avec vérité, avec amour, pour que celle-ci se repente de sa froideur, de sa tiédeur. Alors le psaume 51, puisqu'on l'a à l'écran, on pourrait le placer, le psaume 51, David dira « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent ». Après avoir péché, David va dire « Voilà, je vais enseigner tes voies, Seigneur, comment finalement revenir à toi, comment avoir ce cœur pur, comment avoir cet esprit bien disposé, comment être ce pauvre en esprit et être heureux devant le Seigneur ». Il dira tout d'abord au verset premier, au chef des chants, psaume de David, verset 2, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » David a péché, il a fait le mal, mais pour qu'il entre dans une démarche de repentance, il a dû être confronté par le prophète Nathan. Il est dit ceci lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Vous voyez là, la vraie repentance, David c'était un homme de Dieu, hein. On pourrait dire même que c'était un chrétien affermi de l'époque. Il avait reçu plusieurs onctions à ce moment-là. Et pourtant, l'onction ne l'a pas empêché d'aller faire n'importe quoi. La Bible dit qu'il faut veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et lui, au lieu d'être au combat, il était tranquillement sur son palais, sur son... Et en fait, il avait rangé les armes. Et comme il avait rangé les armes, il était devenu vulnérable. Et il est tombé. Il a vu cette petite. Il est allé vers elle. Il a couché avec elle. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure rapidement, comme il lui a fait un gosse, la Bible, elle parle des vraies choses, il a voulu couvrir le bébé et il a fomenté le meurtre du mari de cette femme. Et il a réussi. Et puis, il a mis tout ça sous un mouchoir. Il s'est dit, ça va aller, ça va le faire. Personne va le savoir. Mais oui, sauf que la Bible dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu voit tout. Allô ? Dieu voit tout. Dieu nous voit dans nos chambres à coucher. Dieu nous voit lorsqu'on est seul sur Internet. Dieu nous voit dans nos conversations. Dieu nous voit dans nos maisons. Dieu nous voit dans notre intimité. Et puis un jour, Dieu va décider de parler à un homme, parce que Dieu parle aux hommes. Vous savez, un peu comme Ananias, quand il était un simple disciple, tu avais un Saul de Tarse qui était là, qui buvait plus, qui buvait plus, je suis réveillé depuis 4h30, tu sais, qui mangeait plus, qui était tourmenté dans son cœur, et Dieu va parler à Ananias pour que Saül, Saul, sorte de son désarroi. Et il va aller avec une parole d'encouragement. Alors parfois, le Seigneur nous envoie des hommes de Dieu avec, vous savez, la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Des fois, il y a de l'encouragement, mais des fois, Dieu a besoin de nous reprendre aussi. Mais nous, on n'aime pas être repris. Nous, on aime toujours les messages à l'eau de rose. Si vous voulez un message à l'eau de rose, venez cet après-midi, je vais vous prêcher l'évangile. Mais j'ai aussi pour rôle de sanctifier le poisson. J'ai aussi pour rôle, avec la parole de Dieu, de préparer l'Église. C'est l'appel des ministères dons. L'appel des ministères dons, ils ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des chrétiens. Littéralement, c'est la remise en place de ce qui est déplacé. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas en place dans ta vie, eh bien, fais-moi confiance, je vais te replacer avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Même si ça ne te plaît pas, j'ai reçu l'autorité du ciel pour ça. Je ne me suis pas appelé moi-même, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Non pas parce que je suis le meilleur, c'est parce que je suis le moins bon. C'est ce que dit la Bible. Alors, donc Dieu, il envoie un prophète, Nathan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Nathan. Et puis, il va lui raconter une petite histoire, parce que Dieu est pédagogique. Il va lui raconter une petite histoire. Et David, sur le moment, il ne va même pas se reconnaître. Mais dans l'histoire, c'est clair, c'est injuste. C'est l'histoire d'un riche qui prend la brebis d'un pauvre, et alors qu'il a plusieurs brebis, et le pauvre, il n'en a pas. Et quand il va raconter cette histoire, David, il va dire, mais c'est pas juste, il rendra 4 fois ce qu'il a pris, etc. Enfin, voyez des fois comme on peut être aveuglé sur notre péché. On peut voir les péchés chez les autres, mais chez nous, quand il y a des choses qui ne vont pas, on peut être très dur. Et Dieu va dire au travers du prophète Nathan, « Eh bien, le riche qui a pris la brebis du pauvre, c'est toi, David. » Et là, la parole de Dieu, elle va le transpercer. Il va être touché dans son cœur. Il ne va pas remettre en question le prophète, il ne va pas dire « Bon, ben toi, tu m'énerves, garde, venez, embarquez-le. » Non, 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 il va reconnaître la voix de Dieu. Et il va demander pardon au Seigneur. Parce que mes amis prophètes, pasteurs, rois ou qui que nous soyons, quand on s'est trompé, on s'est trompé. Et rien n'est pire que le déni. Quand on est surpris, quand on a été surpris par le Seigneur. Si nous voulons évoluer sur le chemin du bonheur, il faut accepter le message de la parole de Dieu. Donc le premier enseignement qui ressort du psaume 51, c'est qu'on ne peut pas se repentir si la parole de Dieu ne parvient pas jusqu'à notre cœur. La repentance est toujours précédée par la prédication. Voilà pourquoi il est important, il est fondamental que les prédicateurs prêchent. Amen. Quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte? Oui ou non? Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Oui ou non? Mais personne n'était sauvé. Personne n'était convaincu de péché. Il a fallu qu'un prédicateur se lève, qu'il prêche la parole de Dieu, qu'il prêche le Seigneur Jésus pour que les âmes soient vivement touchées. Il faut le Saint-Esprit, amen, et il faut la parole de Dieu. La repentance, elle vient de la conviction du Saint-Esprit, mais elle vient aussi lorsque la parole de Dieu nous confronte. La Bible dit que lorsqu'ils eurent entendu acte 2, ce discours, ils furent vivement touchés dans leur cœur. Alléluia. Et ils vont dire, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre va dire, repentez-vous. La repentance est toujours précédée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important non seulement de l'entendre, mais il est important de la lire, cette parole. Oui ou non? Les pauvres en esprit ont un contact avec la parole de Dieu. Et lorsque celle-ci vient à eux, ils se laissent remettre en question, ils se laissent faire par la parole du Seigneur. Amen. Et David dira, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » J'ai péché contre toi seul, verset 6, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le Seigneur voit tout, hein? J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. La deuxième chose que je note, c'est que une vraie repentance, quand on a vraiment réalisé qu'on par la parole de Dieu, qu'elle est venue vers nous et qu'on se repent de nos péchés, qu'on les reconnaît, consiste à assumer et à accepter les conséquences de nos inconséquences. Je répète, la repentance consiste à accepter et à assumer les conséquences de nos inconséquences. David sait que ce qu'il a fait, c'est mal. Et quand on fait le mal, il y a toujours des conséquences. Dieu a dit à Adam dans le jardin, le jour où tu désobéiras, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Ça sera la conséquence de ton inconséquence. Nous ne devons pas penser qu'on peut pécher sans que cela ait de conséquences. Il y a toujours des effets collatéraux. La première des conséquences, c'est devant le Seigneur. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Notre péché, mes amis, a eu pour conséquence la mort de Jésus. Et ce n'est pas la moindre. Mais le péché a amené le désordre dans le monde. Il y a eu des conséquences à l'inconséquence d'Adam. Il n'a pas veillé sur son épouse, il n'a pas su prendre la parole de Dieu à la lettre, et pas plus tard que dans sa propre famille, eh bien, Caïn tuera Abel. Il y a eu des conséquences. Quand on ouvre des portes à l'ennemi vient. Mes amis, écoutez, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, oui ou non? Mais il y a un voleur. Le voleur, lui, il vient aussi Il vient pour voler, pour égorger et détruire. Et il fait encore des ravages quand on lui permet d'en faire. David, à cause de sa faute, a connu dans sa propre maison des conséquences dramatiques. La première, il y en a plusieurs, mais la première a été la perte de l'enfant adultère. Mais vous voyez, quand le jugement est tombé, c'est la conséquence de son inconséquence, et il y en a. La Bible dit que David est allé jeûner, prier, parce que l'enfant est tombé malade. Et pendant plusieurs jours, David va jeûner, il va chercher la face de Dieu. Peut-être, se disait-il, que le Seigneur aura pitié de moi et de cet enfant, et ainsi, eh bien, l'enfant guérira. Et la Bible dit que pendant qu'il jeûnait, qu'il ne mangeait pas, l'enfant mourut. Ses serviteurs autour de lui se disaient, mais comment est-ce qu'on va lui dire que l'enfant est mort, déjà qu'il ne mangeait pas? Il ne mangeait pas tandis que l'enfant vivait. Qu'est-ce qui va devenir si on lui dit que l'enfant est mort? Ils vont aller lui porter la nouvelle, il va comprendre que l'enfant est décédé. La Bible dit qu'il va se lever et il va passer à autre chose. Les serviteurs autour n'ont pas compris. Mais David vivait quelque chose ici, il touche quelque chose du doigt. Il a compris qu'il faut accepter les conséquences de nos inconséquences. Il y a toujours, toujours des traces de nos inconséquences. On peut guérir de nos inconséquences, on peut être restauré de nos inconséquences, mais vous voyez, si par exemple, vous tombez, quand j'étais enfant, nous étions avec des amis en colonie, et puis on était agités, les enfants c'est agité en règle générale, et puis on était sur les chevaux, et là on mettait vraiment le bazar, et les animateurs nous disaient « Attention les enfants, vous êtes en train d'agacer les chevaux !» Bon ouais, on s'en foutait, pardon, on s'en fichait, voilà, c'est les conséquences de mes inconséquences, on s'en fichait, etc., etc., c'était... Et à un moment donné, les chevaux sont partis à fond. Et je suis tombé. Il y en a, ils se sont ouverts le crâne, on a tous fini éclopés. Et moi, je me suis pris un bout de bois dans la main. J'ai encore la cicatrice. Si vous voulez, tout à l'heure, en vous saluant, je pourrais vous la montrer. Un bout de bois, mon ami. J'étais tout seul sur le cheval, il était à fond. Et la force centrifuge a fait que quand lui, il a pris à gauche, moi, je suis allé tout droit. Et je me suis pris un bout de bois, là, bien à la rentrée. J'ai vu un tracteur, je m'en rappelle encore. J'ai couru vers lui, il m'a pris, il m'a ramené, etc. Et je lui mettais du sang partout dans son tracteur neuf, je me rappelle. Mais j'ai encore la cicatrice. Et ça, je pourrais jamais m'en défaire. Dieu m'a pardonné. Je connais quelqu'un dont je tairai le nom, bien évidemment, qui était un toxicomane avant de se convertir et qui a attrapé, hélas, le HIV, le sida. Et quand il s'est converti, né de nouveau, Dieu lui a pardonné ses dépendances. Dieu l'a même libéré de ses dépendances. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, il est encore atteint de la maladie. Il y a donc des choses qui font que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et quand si quelqu'un, par exemple, avait le goût de commettre adultère, dites-vous qu'il y a toujours des conséquences à nos inconséquences. Et la vraie repentance, la vraie, pas celle « je pleure un coup » et puis non, consiste à accepter humblement et totalement les conséquences de mes inconséquences. Le brigand sur la croix, l'un des malfaiteurs crucifiés, injuriait Jésus, Luc 23, 39, mais l'autre, verset 40, 23, 40, le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-là n'a rien fait de mal. Vous voyez, quand on parle du brigand sur la croix, qu'on prêche l'évangile, rapidement on passe sur cet effet-là, sur ce point-là. On dit, il s'est tourné vers le Seigneur, Dieu est un Dieu de grâce, etc. Et puis, c'est formidable. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui dit, tu seras avec moi dans le paradis, je te le dis, tu le seras avec moi aujourd'hui. Bien. Mais avant cela, il dit bien que pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Amen. Il faut être juste. Vous savez, aujourd'hui, on n'ose plus parler du péché. Non, même dans l'Église, ça dérange. Le péché, pasteur. Mais oui, mais le péché, c'est ce qui bloque la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et le péché, il doit être confronté. Et il faut appeler un chat un chat. David, donc, nous enseigne que pour se repentir, il faut que la parole de Dieu vienne jusqu'à notre cœur. Et puis, il montre que la vraie repentance consiste, eh bien, à accepter et assumer les conséquences de nos inconséquences. Et puis, je saute au verset 18 pour aller plus vite. David dira ceci au psaume 51, verset 18, un troisième enseignement, si vous voulez. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Amen. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Dieu aime, ça lui plaît, ça lui est agréable que l'on soit, lorsqu'on a péché, dans la repentance. C'est ce qui touche son cœur, c'est ce qui réjouit son cœur. Ce qui réjouira Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous avons fait quelque chose qui ne va pas, que nous demandions pardon sincèrement. La Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Ce qui réjouit le Seigneur, ce qui réjouit le ciel, la Bible dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alors ce matin, je veux venir devant le Seigneur et je veux réaliser ceci, c'est que le chemin du bonheur commence par faire plaisir à notre Papa dans le ciel. Ce qui lui est agréable, c'est un cœur brisé et contrit. Que de cœurs endurcis. Vous savez, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils n'avaient pas un cœur brisé et contrit. Hein. Ils ont été surpris par le Seigneur est venu vers eux, et au lieu de demander pardon, ils se sont justifiés. Tout va bien. L'église de Laodicée, Jésus est dehors. Ils n'ont plus de vie spirituelle du tout. Ils n'ont plus que de la routine. Jésus vient, Jésus leur parle, leur envoie une lettre, un courrier via le pasteur Jean. « Je n'ai besoin de rien, disent-ils. Tout va bien. Seigneur, donne-moi un cœur brisé. » Et contrit. Renouvelle, dira David, en moi un esprit bien disposé. Est-ce que vous ne voudriez pas ce matin avoir un esprit bien disposé? Un esprit renouvelé. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mais ça commence par un esprit pauvre. Je reconnais, lorsque je suis repris par le Seigneur, et je répète, le pourcentage, 5 personnes sur 7. Tu veux être heureux? Tu veux être heureux, Église? Mais il y a peut-être des choses dans ta vie que tu dois remettre en question. Ah oh non, 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 ce matin, ce qui ne va pas, c'est la musique. Ce matin, ce qui ne va pas, c'est le pasteur. Ce matin, ce qui ne va pas, c'est l'accueil. On ne se remet pas en question. Quand on ne va pas bien, naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les autres en question, mais nous, on ne se remet pas en question. Alors pourquoi on est heureux quand on est pauvre en esprit, quand on laisse le travail de la repentance travailler en nous? Parce que le royaume des cieux est à nous. Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le royaume des cieux est à eux. Mes amis, quand on laisse la parole de Dieu travailler nos cœurs en profondeur, quand notre cœur est vraiment travaillé par le Saint-Esprit et la parole, le royaume de Dieu est à nous. C'est bon, ça. Je ne sais pas ce que tu possèdes dans cette vie. Je ne sais pas. Tu as peut-être une belle maison. Tu as peut-être une belle voiture et gloire à Dieu. Mais ce qui vaut mieux que tout, c'est d'avoir dans sa vie comme possession le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, dit la Bible, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand tu es pauvre en esprit, le royaume de Dieu est à toi. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit sont à toi. Alléluia ! Le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie des gens qui ne se remettent pas en question. Il se barre, le Saint-Esprit. S'il y a de l'orgueil comme Saül, il s'en va, le Saint-Esprit. Il ne reste pas dans les cœurs qui ne savent pas faire de la repentance un état d'esprit. Ça fait combien de temps que tu n'as plus demandé pardon à Jésus ? Vous savez, on devrait tous les jours dire au Seigneur, pardonne-moi, purifie mon cœur, Seigneur. Pour ça, il faut un peu d'humilité. Parce que heureux les pauvres, c'est aussi heureux les humbles. Un peu de simplicité. Ça va, je ne vous dérange pas trop ce matin ? Ah, dommage, je voulais vous déranger. C'est pas grave, je vais recommencer une demi-heure. Non, je blague. Le royaume des cieux est à eux. La paix et la joie. Est-ce que tu veux la paix et la joie? Eh bien, il faut que tu dises comme David, comme ce brigand sur la croix, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et parfois dans notre vie, ça ne va pas. Mais ce n'est pas parce que les autres nous la rendent moins bonne, mais c'est parce que nous ne sommes pas obéissants au Seigneur. C'est tout. C'est tout. Obéis, repens-toi, et tu verras que tu auras la paix et la joie. Moi, j'ai envie d'avoir une église heureuse. Je n'ai pas envie d'avoir une église plaintive. Eh oui! Mais le bonheur, heureux les pauvres en esprit. Je termine, la paix et la joie. Mes amis, Dieu te dit ce matin, si tu es pauvre en esprit, et si tu as compris le vrai message de la repentance, heureux celui, psaume 32, verset 1er, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David était en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'ai plus la paix. Je suis plein de langueur, plein de lassitude, ça ne va pas. Je suis dans la peine. Et il va faire connaître son péché, nous l'avons lu. Et Dieu va lui rendre la joie. Alléluia. Dieu veut te donner la joie. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la paix qui est dans le ciel veut descendre sur ton cœur et sur le mien ce matin. Amen. Et le verset 11 dit, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Il n'y a pas trop de cris de joie. Et il n'est pas en train de dire, vous tous qui êtes sans péché, mais vous tous qui reconnaissez, qui êtes pauvres en esprit, qui reconnaissez, qui avouez qu'il y a dans votre vie des choses qui ne vont pas, alors Dieu dit, si tu le reconnais, si tu mets un terme à ces choses, eh bien Dieu dit, mon royaume est à toi, ma paix est à toi, ma joie est à toi, alléluia! Qu'est-ce qui fait qu'il y a la paix et la joie? C'est parce qu'il y a des gens qui savent se remettre en question devant le Seigneur. Amen. On se met debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Shakarabasante keriondolosaya. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour les bien-aimés qui sont là ce matin. Et nous avons compris, Seigneur, que ton désir, c'est que nous ayons des cœurs humbles, repentis, que nous sachions nous remettre en question lorsque la parole de Dieu vient à nous, que nous savions reconnaître et accepter les conséquences de nos inconséquences. Seigneur, nous réalisons ce matin que ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, c'est lorsque nous savons avec un cœur brisé, contrit, te demander grâce et pardon. Seigneur, je ne connais pas l'état finalement des cœurs qui sont là devant moi, mais toi tu les connais. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que chacun aspire au bonheur, chacun aspire à la joie. Mais ce bonheur, il vient par ta présence. Mais ta présence vient là. Viens là où il y a des cœurs repentants. David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il avait vu chez Saül l'Esprit partir. Seigneur, je te prie de créer en nous un cœur pur, de renouveler en nous un esprit bien disposé. Heureux les pauvres en esprit, voilà les bonnes dispositions du royaume. Pas la suffisance, l'orgueil. Seigneur, nous voulons être humbles devant toi. Simple devant toi. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, pour toutes les choses désorganisées. On pense que les choses sont sans problème. Et peut-être que tu ne vas pas bien, mais demande au Saint-Esprit ce matin, sans condamnation. Dieu ne condamne pas. La conviction de péché n'est pas la condamnation. La conviction de péché nous amène au changement, à la transformation. Demande au Seigneur ce matin, toi qui ne connais plus le bonheur, honnêtement, toi qui te dis que les jours heureux sont derrière ou devant, mais ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des dispositions d'esprit qui ne sont plus là. Renouvelle en moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Avant qu'on se sépare, j'aimerais que les yeux soient fermés et j'aimerais prier, je ne vais pas faire d'appel sur le devant, mais simplement alors que tous les yeux sont fermés, parce que c'est l'Église, c'est sérieux, c'est devant le Seigneur. Simplement, si tu veux que je prie pour toi ce matin, parce que tu as entendu cette prédication, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et que tu comprends ce matin qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a sans doute besoin d'être changé en toi. Simplement, je vais t'inviter à lever la main et je vais prier en terminant pour que le Seigneur t'éclaire, continue de te bénir. Simplement là où tu es, si ça t'a parlé ce matin. Oui, levez vos mains, je vois. Alléluia. Rabasaya, plusieurs mains se lèvent dans la présence de Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. Seigneur, tu vois cet auditoire qui se remet en question. Tu vois ces bien-aimés qui te demandent grâce, qui te demandent que leur cœur soit renouvelé ce matin par le Saint-Esprit. Je te prie de les transformer. Je te prie de les bénir. Je te prie, alors qu'ils ont entendu cette parole, qu'ils laissent cette parole travailler leur cœur et leur esprit, même en repartant à la maison ce midi. Je te prie, Seigneur, que ta grâce parle à leur cœur et qu'ils changent. Parce que la repentance, c'est un changement de mentalité, qui est de vrai changement. Par ta grâce, tu vas le faire. Fais du bien ce matin, Seigneur, à ton Église. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, tu nous veux heureux et je te prie que la paix et la joie descendent sur nous comme une pluie bienfaisante. Nous reconnaissons nos péchés, Seigneur, nous reconnaissons nos misères, nous reconnaissons que nous n'avons pas tout compris, que nous ne savons pas tout, que nous faisons encore des erreurs parfois. Mais Seigneur, fais tomber ta pluie sur nous. Fais tomber cette paix, cette joie profonde. Enlève, Seigneur, l'inquiétude. Enlève la condamnation, enlève la tristesse. Et mets ta joie dans les cœurs. Comme David, Seigneur, comme tu as répandu ta joie dans le cœur de David, répands à nouveau ta joie dans des cœurs et dans des vies ce matin. Le chemin du bonheur, Église, commence par cet état d'esprit-là. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui reconnaissent leurs péchés. Seigneur, je reconnais ce matin que sans toi, je suis rien. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mon orgueil. Je reconnais que souvent, je ne dépends pas de toi. Comme David, souvent, je suis là. Je pense que je suis arrivé. On n'est pas arrivé du tout. On est en danger quand on ne dépend plus de toi, Seigneur. Ce matin, je veux dépendre de toi. Complètement, Seigneur. Complètement. Corraba santa calawere santae. Bénis mon peuple, Seigneur. Bénis mon Église, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, mon Dieu. Heureux est ton peuple, Seigneur, qui entend le son de la trompette. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi?
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes